Eh bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Je vois que nous avons une assistance nombreuse. Il faudra bientôt ouvrir les tâches pour vous recevoir. Ben, c'est le vœu de notre cœur, en tout cas, que cette église soit trop petite, que nous soyons obligés de racheter un grand bâtiment de 3000 places pour pouvoir vous accueillir. Voilà, je laisse que nos artistes puissent prendre place. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que je vous avais apporté il y a 15 jours d'ici. Quelqu'un ne dormait pas ce jour-là. Non. J'avais dit, prier selon la volonté de Dieu. Et ce message que je vous ai apporté, je dois vous avouer, il m'a été imposé par le patron, par Dieu même, parce que j'avais tout à fait autre chose à vous apporter ce jour-là. Et suite à certains événements, certaines conversations, le Seigneur m'a guidé à vous parler de ce message. Et je vous avais dit qu'il fallait prier selon la volonté de Dieu, ne pas prononcer de vaines redites en priant. Et aujourd'hui, je vais vous inciter à persévérer dans la prière. Ce qui veut dire, en quelque sorte, prier constamment pour un sujet en répétant pratiquement les mêmes paroles. Oui, c'est bizarre. Hein? Oui, c'est bizarre. Je suis quelqu'un de bizarre. Demandez à mon épouse. Donc, je ne vais pas me contredire dans ce que j'ai dit il y a 15 jours. Mais nous allons voir que les deux sont possibles et compatibles. J'ai été interpellé après le culte de ce dimanche-là par quelqu'un qui me... en me disant, tu nous demandes de ne pas faire de vaines redites en priant, mais regarde la parabole du juge unique. La veuve insiste, et je me suis dit là, il faut un peu creuser pour voir un peu ce que ça veut dire. Et ne pas laisser les chrétiens dans le doute, ni dans l'incompréhension, ni dans le trouble. Alors nous allons prendre ce chapitre Luc 18, qui nous servira de base, et je vais parler dans cet exposé, je vous donnerai trois exemples de persévérance dans la prière, pour nous inciter à prier, à persévérer dans cette prière. Donc, première lecture, Luc chapitre 18, pour montrer qu'il est nécessaire de prier maintenant, constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconte à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie ». Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leur droit promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre. La prière est un exercice difficile, il faut le reconnaître. Un exercice de longue haleine, et il est rare qu'après avoir prononcé le mot « Amen », il est très rare, après avoir dit « Amen », de voir notre prière exaucée subitement. Ça peut arriver suivant l'urgence de la demande ou de la situation que l'on vit, mais Jésus nous connaît mieux que personne. Il sait que nous nous décourageons facilement quand nous ne voyons pas la réponse à notre prière arriver rapidement. C'est pour cela qu'il nous appelle à la persévérance. Ce qui, il faut reconnaître, n'est pas toujours une de nos qualités. Si nous sommes dans la volonté de Dieu en priant, et donc il est important de prier et de persévérer dans la prière. Et notre Dieu nous répondra en son temps. Je dis, nous allons voir quelques exemples d'intercession dans la prière et nous allons faire la connaissance de quelques intercesseurs que nous connaissons bien. Commençons par Abraham. Il était un homme de foi et de persévérance dans sa façon de prier. On dit d'Abraham qu'il était le père des croyants. Et il va se passer quelque chose de terrible. Dieu a décidé de détruire la ville, les villes de Sodome et de Gomorre à cause de leur péché. Et Abraham était un homme très intime avec Dieu. Et Dieu ne veut pas mettre Abraham en dehors de son projet. Il veut l'avertir de ce qu'il veut faire. Remarquons que notre intimité avec Dieu nous donne aussi une relation privilégiée avec lui. Ainsi, Dieu peut nous mettre dans certaines confidences. Dieu peut nous parler, nous révéler des choses secrètes. Car comme avec Abraham, il avait une confiance absolue en cet homme. Et si Dieu a une confiance absolue parce que nous sommes des personnes qui avons une intimité profonde avec Dieu, je suis convaincu que Dieu peut se révéler à nous d'une manière particulière et nous faire comprendre parfois certaines choses qui peuvent se produire dans notre vie ou autour de nous. Et nous voyons au chapitre 18 de la Genèse cette prière. Enfin, c'est une prière quelquefois, c'est une intercession qu'Abraham a faite. Abraham s'approcha de Dieu et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ?» Et il commence, « Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, vas-tu aussi les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'eux ?» Et commence une intercession, un dialogue entre Dieu et Abraham. Nous voyons cette intercession, cette persévérance d'Abraham concernant la ville de Sodome et son désir de sauver les hommes qui seraient justes. Quelque part, cette prière ressemble à un marchandage de marchands de tapis. Là, hein. S'il n'y en a pas 40, 50, il y en a 45 et on marchande quelque part. Et Abraham se permet de vouloir faire fléchir Dieu dans la décision qu'il a prise afin de détruire cette ville. Et Abraham met la barre fort haut au départ. S'il y a 50 justes, Seigneur, détruiras-tu la ville? Bien sûr que non. Dieu est un Dieu bon. Il ne peut pas commettre l'irréparable. Je veux vous faire remarquer quand même l'humilité d'Abraham dans sa prière quand il s'adresse à Dieu. Il n'impose pas sa volonté à Dieu, bien sûr. Il intercède avec persévérance et avec respect. Et je me plais souvent à dire que Dieu n'est pas notre copain. Certains croient que Dieu est notre copain, mais non. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu trois fois saint. Même si nous sommes intimes avec lui, ce n'est pas notre pote qu'on peut lui taper sur l'épaule. Faisons attention à la manière dont nous nous adressons à Dieu, frères et sœurs, à la manière dont nous intercédons. Il nous est dit, dans Hébreux chapitre 10, verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » Oui, nous pouvons en toute liberté nous approcher de lui, de ce Dieu trois fois saint. Mais nous devons avoir une disposition de cœur importante pour accéder au trône de Dieu. Et cette condition est la suivante. Au verset 22 de ce même chapitre, il dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Il y a une attitude de sincérité de notre part quand nous nous approchons devant notre Dieu. Nous ne devons pas avoir une attitude hypocrite. Nous devons être vrais quand nous intercédons avec persévérance. Approchons-nous avec foi, avec un cœur pur, sans arrière-pensée de gain malhonnête. Voilà l'attitude que nous devons avoir, car Dieu, au fond, ne nous doit rien. Nous lui devons tout. Mais revenons à Abraham et son intercession. Nous pouvons affirmer qu'il priait dans la volonté de Dieu. Car il savait que Dieu délivrait le juste. C'est pour ça qu'il était dans sa volonté, parce qu'il sait que Dieu est un Dieu bon, un Dieu qui ne peut pas tuer le juste et l'injuste. Et il pensait en particulier à son neveu Lot, que la parole de Dieu qualifie d'injuste, qui se morfondait dans cette ville. Et Abraham le répète en disant, tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et le faire mourir, et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agirais-tu pas selon le droit ? Et Dieu lui répond à ce moment-là, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et nous voyons que Abraham, quelque part, s'il avait mis la barre fort haut, quelque part, il savait bien qu'il n'y avait pas 50 justes dans cette ville. Il s'en doutait, mais bien, il a commencé. Vous savez, quand on vante quelque chose, on essaie de le mettre plus haut pour pouvoir avoir le prix qu'on voudrait l'obtenir. Donc, c'est un peu cela qu'Abraham voulait faire dans sa prière. Et nous le voyons avec beaucoup de respect, revoir à la baisse ses exigences. Il est bon aussi, frères et sœurs, de réfléchir quand nous prions, est-il raisonnable pour notre part de demander telle ou telle chose à Dieu? On ne peut pas demander n'importe quoi, ni n'importe comment à Dieu. Demandons-nous s'il est bon et nécessaire pour nous que nous demandions à Dieu ce que nous lui demandons. Si votre prière ce matin, parce que vous avez besoin d'une voiture, vous dites, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, tu vois qu'elle commence à tomber en rack. Je te prie pour que tu puisses me faire acheter une Ferrari. Je ne pense pas que c'est... Mais Dieu peut intervenir. Je l'ai vécu personnellement. Et j'avais une voiture qui tombait en décomposition et quand le turbo repassait à l'huile et chaque fois que j'accélérais, il y avait un nuage de fumée. Que même un jour, un motard qui me suivait est venu à ma fenêtre, il m'a dit, tu vois derrière? J'ai dit, oui, je sais. Et il y avait un nuage de fumée qui me suivait. Et par différentes circonstances, Dieu a permis que je puisse m'acheter une voiture. Oui, je crois que Dieu peut intervenir, mais il faut que notre prière soit quelque chose de raisonnable, pas un caprice. Dieu ne nous veut pas de ses enfants capricieux. Et nous voyons qu'Abraham continue cette discussion et cette prière avec Dieu, et Abraham s'arrête à dix juste, Dieu lui promettant de ne pas détruire la ville, et que malgré tout, il savait que dans son fort intérieur, il n'y avait certainement pas 10 justes. Mais Abraham s'arrête là, il n'insiste plus. Dieu lui ayant dit qu'il exaucerait sa prière. Frères et sœurs, si nous intercédons avec ardeur pour un sujet comme Abraham, sachons nous arrêter de prier au moment voulu. Cela doit être pour nous une conviction intime. À un moment donné, qu'il faut arrêter de prier, car Dieu doit mettre en nous cette conviction que cette prière va être exaucée selon sa volonté. Parce que alors, si nous continuons à casser, permettez-moi l'expression, à casser les oreilles à Dieu, eh bien, ce serait une vaine redite que nous allons lui apporter, qui n'aura plus de valeur. Et malgré sa prière, la ville fut détruite. Mais Dieu, dans sa grande bonté, a vu les justes qu'il fallait sauver, c'est-à-dire la famille de Lot, a été sauvé. Et je pense que cela, c'est aussi grâce à la prière d'intercession d'Abraham que Lot a été sauvé. Intercesseur, pour être un intercesseur dans la prière, il ne faut pas spécialement être un super chrétien, un super héros, un pasteur avec un ministère extraordinaire, un ancien consacré. Non, n'importe qui d'entre nous peut être un intercesseur, peut avoir cette possibilité d'entrer en relation avec Dieu et de commencer à intercéder. L'apôtre Jacques nous parle d'Élie en nous disant ceci. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Élie était semblable à nous. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire qu'il avait ses hauts et ses bas, et nous le voyons dans la parole de Dieu. Les hauts faits d'Élie, mais aussi Élie, il était bon à ramasser à la cuillère, parce que Élie n'avait plus le moral. Élie voulait mourir. Donc, n'essayons pas de mettre sur un piédestal des grands hommes de Dieu, parce qu'ils sont comme nous, ils ont eu leur haut et leur bas. Voyons justement cette histoire, rapidement, au chapitre 18 de premier livre des rois, au verset 41. Nous savons que Israël vivait dans la sécheresse depuis 3 ans et demi, et Élie s'adresse au roi et lui dit « Allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. » Akab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son serviteur « Monte plus haut et regarde du côté de la mer. » Celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire « Je ne vois rien. » Et Élie l'envoya 7 fois pour regarder. À la 7e fois, le serviteur annonça « Je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. » Alors Élie lui ordonna « Va dire à Akab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. » Déjà de tous côtés, le ciel s'obscurcissait. D'épais nuages poussés par un vent de tempête, soudain une pluie torrentielle se mit à tomber. Akab monta sur son char et partit pour Jisréel. Élie intercède afin que la pluie tombe. Déjà avant la venue de la pluie, il dit au roi qu'il entend le bruit de l'orage. Je crois que c'était le seul à avoir entendu le bruit de l'orage. Ça s'appelle la foi. Il est le seul à entendre. La foi est indispensable, frères et sœurs, pour l'intercession. Et ainsi, par la foi, nous voyons déjà l'accomplissement de notre prière. Nous voyons déjà les choses qu'on ne peut pas voir de nos propres yeux, mais que nos yeux de la foi doivent voir et percevoir. Ensuite, il intercède. Il lutte dans la prière, envoyant son serviteur afin de voir le résultat. Et à la 7e fois que le serviteur monte sur le haut de la montagne, il voit un petit nuage. Et Élie arrête de prier. Il sait que la réponse est arrivée. Il ordonne au roi de rentrer car la pluie arrive. Et en effet, la pluie est arrivée. Il faut savoir, comme je l'ai dit, à un moment, savoir discerner les réponses de Dieu à nos prières. Sachons discerner les signes avant-coureurs de la réponse. Ne fatiguons pas Dieu avec des paroles inutiles. Il semble nous dire, mais fais attention, discerne l'arrivée de la réponse. Alors arrête de prier. Et combien de fois nous insistons dans la prière, nous sommes tellement braqués par notre problème que nous ne voyons pas les petits signes que Dieu nous envoie pour nous prouver qu'il est en train de répondre à notre prière. Discernons les signes, frères et sœurs, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de notre attitude, de notre intimité avec Dieu. Peut-être si nous ne voyons pas ces signes, mais nous manquons d'une certaine sensibilité parce que nous ne sommes pas assez intimes avec Dieu, parce que nous ne prenons pas le temps de nous asseoir, de réfléchir, de dialoguer avec Dieu. Nous ne sommes pas assez en communion avec lui pour ne pas voir les signes. Frères et sœurs, il y a un moment où il nous faut dire amen à notre prière et dire déjà merci Seigneur pour la réponse que tu envoies. Élie avait foi en son Dieu, et ce signe était suffisant pour lui. Il savait que Dieu répondrait. Sa foi lui permettait d'arrêter de prier. Rapidement, un troisième exemple d'intercession. Nous avons dans les Actes des Apôtres, cette histoire où il nous est relaté que l'apôtre Pierre a été emprisonné. Le roi Hérode s'amusait à mettre les chrétiens à mort, il s'amusait à les mettre en prison, ça amusait la foule, donc autant continuer à rigoler. On va mettre Pierre en prison, chapitre 12, verset 1. « Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit arrêter aussi Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison, il le plaça sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne escorte, sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. L'Église priait ardemment. Nous voyons ici l'apôtre Pierre enfermé dans une prison, sévèrement gardé, aucune possibilité pour lui de s'évader. C'était techniquement impossible, sauf miracle, bien entendu, de s'évader dans la situation où il était. Et que remarquons-nous ? Bien, l'attitude de l'Église est extraordinaire. Elle se met à la prière tout de suite. Mais elle ne prie pas n'importe comment, elle ne fait pas monter des veines redites et elle prie selon la volonté de Dieu. Elle fait monter d'ardentes prières, afin que Dieu intervienne selon sa volonté. L'Église priait pour la libération de Pierre, oui, mais je pense qu'elle priait afin que Pierre soit plutôt en paix, sachant qu'Hérode avait de mauvaises dispositions à l'égard des chrétiens. L'Église voulait-elle vraiment la libération de Pierre ? Certainement, mais l'Église ne l'envisageait presque pas, vu la situation et les conditions d'incarcération de notre ami Pierre. Dire que l'Église manquait de foi, malgré sa persévérance dans la prière, je dirais, il y a un peu de cela. Les circonstances ne plaident pas en la faveur de Pierre. Et je crois que parfois, quand nous prions, nous nous arrêtons trop sur les circonstances difficiles. Nous oublions que nous avons un Dieu qui est plus grand que les difficultés. Ça, nous l'oublions. Et les difficultés sont tellement grandes que nous voyons Dieu petit, malgré que l'on prie. Oui, nous sommes confrontés dans nos prières à cela. Continuez à prier malgré les circonstances défavorables. Voilà ce que nous devons faire. Et l'Église ne se relâche pas, elle persévère pendant des jours. Et Dieu intervient miraculeusement pour la libération de Pierre, nous le voyons. Une libération surnaturelle, car aucun ne s'est aperçu de sa disparition. Même Pierre n'arrive pas à croire que ce qui lui arrive est vraiment vrai. Il était croyant vivre dans un rêve, il était en train de rêver qu'il était en train d'être libéré. C'est quand il est carrément sorti à l'extérieur qu'il s'est rendu compte, et que l'ange l'a quitté, qu'il s'est rendu compte qu'il était vraiment en liberté. Et bien sûr, Pierre se dirige vers les membres de l'Église. L'Église demandant la libération de Pierre, ou plutôt que Pierre soit vraiment aidé dans ces difficiles circonstances, qu'il puisse aller en paix jusqu'à la mort. Toujours est-il que Pierre se dirige vers les membres de l'Église et qu'il commence à frapper à la porte. Et ils ont difficile à lui ouvrir, parce que certainement qu'il priait tellement ardemment que les prières étaient tellement bruyantes qu'on entendait difficilement quelqu'un frapper à la porte. Mais la servante, Rhode, arrive et elle est tellement heureuse qu'elle lui ouvre pas. Elle va dire aux gens de l'église, « Pierre est là, Pierre est là !» Et personne ne le croit. Ils étaient en train de prier pour la libération de Pierre, et quand on dit « Pierre est devant la porte », ça va, oui. Je ne sais pas dans quelles conditions Pierre se trouve, c'est pas possible. Où est leur foi ? Prier avec persévérance, frères, aussi, frères et sœurs, c'est aussi prier avec foi. Sinon, notre prière n'a aucune valeur. On peut persévérer dans la prière par habitude, mais sans foi. Nous avons vu que Élie lui a suffi d'un petit signe, un petit nuage, et il avait compris l'exaucement de sa prière. Et l'Église, de ce moment-là, priait sans avoir une vision, sans avoir une vision de ce que Dieu pouvait faire dans des cas tellement particuliers. Oui, nous sommes appelés à chercher la volonté de Dieu dans la prière, mais nous devons avoir aussi une vision de ce que Dieu veut faire et rechercher vraiment la volonté de Dieu et sa face. Dieu demande que nous prions avec foi et Dieu nous écoute. Frères et sœurs, nous voulons ce matin continuer à prier avec persévérance, car il y a pas mal de victoires que nous devons avoir au sein de l'Église et dans notre vie. Nous avons vu ces trois façons de prier, Abraham, Élie et l'Église de Jérusalem. Mais revenons à notre texte initial dans Luc. Jésus nous demande de prier sans nous décourager. Comme je vous l'ai dit, c'est souvent notre cas d'être atteint par le découragement quand la prière n'est pas exaucée rapidement. Ces trois exemples que je vous ai cités, ce sont des situations désespérées aux yeux des hommes. C'était des cas difficiles. Et nous voyons comment Dieu a répondu à ces prières faites avec persévérance. Et Jésus nous parle dans cette parabole d'un cas difficile, un juge insensible face à cette pauvre veuve qui désirait être entendue et exaucée dans sa demande. Dieu serait-il comparable à ce juge ? Mon impression est plutôt que c'est nous qui prenons Dieu pour un juge inique des fois. On dit « Oh Dieu, tu es dur, je ne comprends pas, pourquoi tu ne réponds pas ?» Et je pense que c'est pour cela que Jésus prend volontairement cet exemple, l'exemple de ce juge. Ça c'est mon sentiment, peut-être que vous ne le partagez pas, mais c'est comme ça que je le ressens. Car nous avons l'impression parfois que Dieu ne nous aime pas, qu'il nous fait souffrir en ne répondant pas, qu'il ne nous entend pas, qu'il se plaît à nous faire souffrir. Bien sûr, nous n'osons pas trop le dire tout haut, parce que ne voudrait pas qu'on nous regarde de travers dans l'Église, mais nous le pensons tout bas. Disons, Dieu, tu ne m'aimes pas, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas dans telle ou telle situation ? Mais nous voyons que cette veuve, quant à elle, elle continue d'insister, se battant pour obtenir son droit. Et comme je l'ai dit, la prière est un combat. Et nous l'oublions trop souvent. Un combat est une action de longue haleine. Quand nous voyons les gens combattre, soit dans un combat sportif ou autre, il faut aller jusqu'au bout pour obtenir la victoire. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. L'apôtre Paul nous compare à des athlètes. Et l'athlète n'obtient pas sa récompense s'il n'arrive pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est cela que nous devons faire. Cette femme priait selon la volonté de Dieu. Ce n'était pas de vaine redite, même si elle répétait la même prière. Elle priait avec persévérance parce qu'elle savait qu'elle devait être exaucée dans sa prière. Elle avait cette profonde conviction. Et à force d'insistance, elle obtient gain de cause. Et Jésus fait remarquer comment réagit ce juge et d'ajouter « Croyez-vous que Dieu ne répond pas à votre prière ?» C'est une question qu'il nous pose. Hein. Ce n'est pas Daniel qui la pose. « Croyez-vous que Dieu ne répond pas à votre prière ?» Répondez, pas tout haut, hein, mais pour chacun d'entre vous, par rapport à ce que vous avez demandé à Dieu et par rapport aux prières auquel vous n'avez pas encore obtenu de réponse. C'est le doute qui nous bloque. À quoi bon insister dans la prière puisque la réponse tarde à venir ? C'est ce qu'on se dit souvent, frères et sœurs. Le doute nous bloque. Et le doute, c'est l'arme de notre ennemi. Il sème le doute dès le début, dès l'origine de ce monde. Il a semé le doute. Dieu a-t-il réellement dit, dit-il à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Croyez-vous que Dieu ne réponde pas à votre prière? Mais Dieu a-t-il réellement dit qu'il va vous insuffler? Tu crois que Dieu va te répondre? Il met le trouble. Et voilà, le doute est entré dans le monde dès le début de l'humanité. Et cette petite voix qui nous dit « ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien d'insister dans la prière. Ça fait combien de temps que tu pries pour tel sujet? Arrête, n'insiste plus. » Voilà ce que l'ennemi souffle à notre cœur, à notre esprit. Mais Jésus balaye cela, ne doute pas. Dieu nous aime, il veut répondre en son temps, frères et sœurs, et à sa façon. Cessons de croire que Dieu nous punit des fois, ne voulant pas nous répondre. Persévérons dans la prière, c'est ce qu'il nous demande. Mais Jésus se pose la question, y aura-t-il de la foi sur la terre quand il reviendra? Et alors les gens disent, oui, mais voilà, vous avez entendu, Jésus a dit qu'il n'y a plus de foi. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Il se pose la question, mais il y a encore des gens de foi, et j'ai foi que vous avez la foi ce matin. Sinon, à quoi bon venir ici tous les dimanches, rester devant chez vous et regarder téléfoot? Ben oui. Si nous venons ici, c'est que nous avons foi en Dieu, car nous savons qu'il nous entend et qu'il écoute nos prières, parce que nous persévérons dans la prière. Oui, le Seigneur se pose la question, mais il sait que dans son Église, il y a encore des enfants de Dieu qui ont la foi, qui croient et qui s'attendent à lui. Alors, frères et sœurs, soyons parmi ceux qui ont gardé la foi jusqu'au bout. Ne nous lassons pas d'intercéder, persévérons, restons dans la volonté de Dieu. Et je suis convaincu que Dieu va intervenir dans les prières que nous lui adressons. Soyons sensibles à sa voix, soyons sensibles aux signes qu'il nous montre, qu'il va répondre à notre prière. Frères et sœurs, passons plus de temps dans la prière, passons plus de temps dans la méditation afin de comprendre ce que Dieu veut vraiment dire à son Église. Amen. Seigneur, ce matin, tu veux nous apprendre la patience, tu veux nous apprendre à persévérer dans la prière, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous décourager, car c'est vrai, nous sommes fragiles. Et nous avons tendance à écouter nos sentiments, à écouter cette petite voix qui nous dit « ça ne sert à rien de prier ». Dieu Tout-Puissant, donne-nous cette force, cette persévérance, que l'Église obtienne les victoires, que l'Église soit victorieuse dans ce monde de ténèbres. Seigneur notre Dieu, nous prions pour que chacun d'entre nous ait cette force de persévérer dans la prière. Amen.